Chapitre 39. La cité de Tamarang n'était pas assez grande pour contenir tous ceux qui voulaient y entrer. Des réfugiés arrivaient de partout en quête de protection et de sécurité. Repoussés par la garde, ils avaient investi les alentours de la ville. Au pied des murs et jusque sur les collines environnantes, des tentes et des cabanes se dressaient les unes contre les autres. Dès le matin, les gens avaient afflué sur le marché improvisé installé à l'aplomb des murailles. Dans les échoppes faites de briques et de brocs, des fugitifs venus des villes, des villages et des grandes cités vendaient tout ce qu'ils possédaient. On trouvait de tout, des vieux vêtements jusqu'aux bijoux les plus fins. À d'autres endroits, on proposait des fruits et des légumes. Des barbiers, des guérisseurs et des diseuses de bonne aventure abordaient le chaland tous les trois pas. Des peintres proposaient un portrait minute, et des illuminés armés de sangsues bradaient des saignées à la criée. Le vin et les alcools forts étaient en vente libre. En dépit des sinistres raisons de leur présence, tous ces déracinés semblaient de joyeuse humeur. L'illusion d'être en sécurité, selon Richard, et l'abondance de boissons. Les merveilles qu'apporterait le petit père Ral étaient un des grands sujets de conversation. Au centre de petits groupes de citoyens, des orateurs gonflés d'importance annonçaient les dernières nouvelles et décrivaient dans le détail les plus récentes atrocités. La foule de miséreux gémissait et hurlait de rage en prenant connaissance des exactions de l'armée de Terre d'Ouest, et les plus excités criaient vengeance d'une voix avinée. Richard ne vit pas la femme dont les cheveux dépassent la ligne de la mâchoire. Le château se dressait au sommet d'une colline derrière son propre mur d'enceinte. Le long du chemin de ronde, des dizaines d'étendards rouges à tête de loup noir flottaient au vent. Les énormes portes en bois de la cité dans la première muraille étaient fermées, sans doute pour contenir la racaille. Des cavaliers patrouillaient dans les rues de fortune. Leurs armures étincelantes sous le soleil de la matinée évoquaient des phares dans cet océan de pauvres gens bruyants comme une tempête. Devant ces patrouilles, certains réfugiés souriaient d'aise, d'autres inclinaient respectueusement la tête, mais tous, sans exception, s'écartaient pour laisser passer des soldats qui ne leur accordaient pas un regard. Et ceux qui n'étaient pas assez vifs pour dégager assez rapidement le passage recevaient un bon coup de pied dans la tête. Cela dit, la foule se dispersait moins vite devant les soldats que sur le chemin de Calan. À voir les badauds s'écarter dès qu'ils apercevaient la mère inquisitrice, Richard pensa à une meute de chiens qui fuit devant un porc-épic. La robe blanche de la jeune femme brillait agressivement au soleil. Le dos bien droit, la tête haute, elle avançait comme si la ville entière lui appartenait. Le regard fixe, elle n'accordait pas la moindre attention à la populace. Elle avait refusé de mettre son manteau qui serait allé contre les faits recherchés. Il ne devait pas y avoir de doute sur son identité. Et c'était réussi. Les gens se bousculaient pour ne pas rester sur son passage. Une fois à l'abri, ils inclinaient la tête et se répétaient les uns aux autres le titre de Calan afin que nul ne l'ignore. Régalienne, l'inquisitrice dédaigna aussi toutes les révérences qu'on lui faisait. Zed, qui portait le sac de Calan, marchait aux côtés de Richard, deux pas derrière leur maîtresse. Les deux hommes, en bons gardes du corps, ne cessaient de sonder la foule. Depuis qu'il connaissait le sorcier, Richard ne l'avait jamais vu s'embarrasser d'un sac. Une vision des plus étranges. Le sourcier avait ouvert son manteau pour exposer l'épée de vérité. Quelques sourcils se froncèrent sur son passage, mais ça n'avait aucune mesure avec la tempête soulevée par la mère inquisitrice.
« C'est comme ça partout où elle va ?» demanda Richard.
« J'ai bien peur que oui, mon garçon. »
Sans hésiter, Calan traversa le pont de pierre qui conduisait aux portes de la ville. Les gardes qui se tenaient de l'autre côté s'écartèrent prudemment. Richard regarda autour de lui au cas où il devrait battre en retraite d'urgence. Les 20 soldats qui protégeaient les portes avaient à l'évidence l'ordre de ne laisser entrer personne. Au garde-à-vous, ils se jetèrent des regards inquiets, sans doute parce qu'ils n'attendaient pas une visite de la mère inquisitrice. Avec un grincement métallique d'armure, certains reculèrent, se percutant les uns les autres. D'autres ne bougèrent pas, totalement désemparés. Kalan s'arrêta et fixa les portes comme si elle pensait que ces obstacles de chair et d'os allaient se volatiliser. Les hommes qui lui faisaient face reculèrent en jetant des coups d'œil désespérés à leur capitaine. Zed passa devant Kalan, se tourna vers elle, fit une révérence comme pour s'excuser de son audace, puis pivota sur les talons et se campa devant le capitaine.
« Que se passe-t-il? Es-tu aveugle, officier? Fais ouvrir les portes !»
Les yeux noirs du militaire se posèrent sur le sorcier, puis sur Kalan.
« Désolé, mais nul ne peut passer. D'ailleurs, comment vous appelez-vous ? »
Zed s'empourpra si comiquement que Richard dut faire un effort pour ne pas éclater de rire.
« Capitaine ! »
siffla-t-il.
« Oseriez-vous prétendre qu'on vous a ordonné de barrer la route à la mère inquisitrice si elle se présentait à vous ?»«
Eh bien, on m'a dit... Je n'ai pas... »«
Ouvrez ces portes sur le champ !»
cria Zed les poings sur les hanches.
« Et allez chercher une escorte digne de votre visiteuse !»
Le capitaine sursauta si violemment qu'il faillit en sortir de son armure. Quand il beugla des ordres, ses hommes commencèrent à courir comme des fourmis dérangées par un voyageur, les portes s'ouvrirent vers l'intérieur. Des cavaliers en jaillirent et vinrent se placer en colonne devant Kalan, porte-étendard en tête. D'autres montures arrivèrent derrière eux, des fantassins coururent, flanquant l'inquisitrice à une distance respectable. Pour la première fois, Richard mesurait la solitude de la jeune femme, son pain quotidien dans les contrées du milieu. Comment avait-il pu se vautrer dans un désespoir absurde? Rongé de remords, il comprit qu'un ami pour elle, c'était déjà beaucoup.
« Vous appelez ça une escorte digne d'une mère inquisitrice ?»
rugit Zed.
« Enfin, il faudra s'en contenter !»
Il se tourna vers Kalan et se fendit d'une révérence si exagérée que son aimant qu'a traîné dans la poussière.
« Toutes mes excuses, mère inquisitrice, pour l'insolence de cet homme et l'indigence de l'escorte !»
Son regard daignant se poser sur le sorcier, Kalan inclina imperceptiblement la tête. Bien que cela lui fût interdit, la silhouette de la jeune femme dans cette robe faisait transpirer Richard à grosses gouttes. Les hommes de l'escorte attendirent, gardant un œil circonspect sur Kalan. Quand elle avança, ils lui emboîtèrent le pas. Les sabots des chevaux soulevèrent des nuages de poussière lorsqu'ils franchirent les portes. Au passage, Zed, qui suivait Richard, souffla au capitaine.
« Remerciez les esprits du bien que l'inquisitrice ne connaisse pas votre nom !»
Quand ils se furent éloignés, le sorcier regarda brièvement derrière lui et vit le militaire soupirer de soulagement. Le jeune homme eut un petit sourire. Il voulait ficher la trouille à ses gens et ça marchait au-delà de ses espérances. À l'intérieur de la ville régnait un ordre inversement proportionnel au joyeux charivari qui sévissait dehors. Dans les rues qui partaient en étoile du château, des boutiques proprettes exposaient leurs marchandises derrière des vitrines impeccables. Ici, la poussière et les odeurs fortes de l'extérieur brillaient par leur absence. Quant aux auberges, Richard n'en avait jamais vu d'aussi luxueuses, sans même parler d'y descendre. Devant certaines, des portiers en uniforme rouge avec des gants blancs montaient consciencieusement la garde. Sur les magnifiques enseignes s'affichaient des noms à faire rêver. Le Jardin d'Argent, l'Hostellerie de la Colline, l'Étalon Blanc ou encore le Clos du Chariot. Des hommes en riches manteaux aux couleurs vives escortaient des femmes vêtues de robes sophistiquées. Avec un calme régalien, tout ce petit monde vaquait gracieusement à ses occupations. Le seul point commun entre ces gens et ceux de l'extérieur, eux aussi faisaient de profondes révérences dès qu'ils apercevaient la mère inquisitrice. Entendant les sabots des chevaux marteler les pavés et les cliquetis des armures, ils s'écartaient comme les gueux, mais un peu plus lentement. Leur déférence manquait de spontanéité, et il n'y avait aucune sincérité dans leur soumission. Au fond de leurs yeux, Richard crut voir une ombre de mépris. Fidèle à son attitude hautaine, Kalan les ignora superbement. Ces gens, remarqua le sorcier, regardaient l'épée de vérité avec plus d'intérêt que les réfugiés. Les yeux des hommes s'attardaient un peu sur la garde et les femmes s'empourpraient de dédain. Si ces dames portaient en règle générale les cheveux courts, certaines les avaient cependant jusqu'aux épaules, jamais plus longs. Ce détail aussi isolait Callan avec sa superbe crinière qui lui cascadait dans le dos. Aucune femme n'arborait pareille chevelure et Richard se félicita d'avoir refusé de tondre son ami. Sur un ordre de son chef, un des cavaliers quitta les rangs et galopa jusqu'au château pour annoncer l'arrivée de la mère inquisitrice. En avançant, Callan arborait l'expression indéchiffrable que Richard lui avait vue à plusieurs occasions. À présent, il comprenait que c'était le masque imposé à une inquisitrice. Quand ils furent en vue des portes du château, des trompettes annoncèrent l'arrivée de la visiteuse. Le chemin de ronde grouillait de lanciers, d'archers et de fantassins. En rang serré, ils s'inclinèrent comme un seul homme lorsque Callan arriva devant l'arche et ne relevèrent pas la tête pendant qu'elle la franchissait. Dans le tunnel d'accès, des soldats au garde-à-vous alignés le long des murs la saluèrent sans qu'elle daigne tourner son regard vers eux. Dans les jardins en terrasse, des vasques de pierre flanquaient les sentiers. Beaucoup contenaient encore des plantes, voire des fleurs qui devaient sans doute provenir de serres et être repiquées chaque jour. Sur les parties plates des jardins, des haies parfaitement entretenues composaient de fabuleux labyrinthes végétaux. Près du château, plus grandes, elles étaient taillées pour représenter des objets ou des animaux. Levant les yeux vers les hautes murailles, Richard fut ébloui par ce chef-d'œuvre de maçonnerie. La première fois dans sa vie qu'il était si près d'une structure de cette taille construite par l'homme. Le palais de Chota n'était pas petit, mais sans comparaison avec celui-là, et il ne s'en était pas approché. Les tours et les tourelles, les murs et les rampes d'accès, les balconnets et les niches des statues, tout cela tutoyait le ciel où que son regard se posa. Si ce royaume était vraiment mineur, comme l'affirmait Callan, à quoi ressemblaient donc les capitales des autres? Les cavaliers les ayant abandonnés, les fantassins les flanquèrent, six de front, avec assez de place pour en ajouter six autres, alors qu'ils franchissaient la porte à double battant plaquée de laiton. Dès qu'ils furent dans le château, l'escorte s'écarta, laissant les trois visiteurs avancer seuls, Callan toujours en tête. Le hall était immense, avec un sol en marbre en damier qui semblait s'étendre à l'infini. Si large qu'il aurait fallu 10 hommes se tenant par la main pour en faire le tour, des colonnes de pierre polie aux sculptures en torsade, alignées des deux côtés de la salle, supportaient une infinité d'arches qui tutoyaient le plafond nervuré voûté au centre. Sur les murs, des tapisseries géantes illustraient les épisodes les plus héroïques d'anciennes batailles. Richard avait déjà vu des tapisseries, car son frère en possédait deux. Il les aimait bien, même s'il jugeait extravagant que Michael s'entoure d'un tel luxe. Mais devant celle-là, on aurait cru comparer une superbe peinture à l'huile à des dessins tracés dans la poussière du bout d'un bâton. Que de telles splendeurs puissent exister fut une révélation pour le jeune homme. Zed s'approcha de lui et murmura « Arrête de regarder partout, la bouche ouverte comme un pecno !» Vexé, le sourcier serra les mâchoires et s'interdit de tourner la tête. Se penchant vers Zed, il lâcha du coin des lèvres « Callan vit tout le temps dans ce genre d'endroit ?»«
Non, la mère inquisitrice est habituée à beaucoup mieux que ça !»
Accablé, Richard n'insista pas. Devant eux se dressait un grand escalier. D'un coup d'œil, Richard estima que sa maison, avec de la place autour, aurait tenu tout entière sur le palier central. De chaque côté, des marches en marbre se déroulaient majestueusement. Des gens attendaient au pied de l'escalier. La reine Milena se tenait au centre, un peu devant ses courtisans. Vêtue d'une robe de soie aux couleurs tapageuses, grassouillette à souhait, elle portait une cape en peau de renard tachetée, un animal très rare. Ses cheveux, nota Richard, étaient presque aussi longs que ceux de Callan. Au début, il ne reconnut pas ce qu'elle portait sous le bras. Une série de jappements lui indiqua qu'il s'agissait d'un chien. À part la reine, tout le monde s'agenouilla à leur approche. Oubliant l'ordre de Zed, Richard fixa intensément Milena. La première souveraine qu'il voyait de sa vie. Le sorcier lui jeta un coup d'œil agacé, il détourna le regard et, comme son vieil ami, tomba à genoux, la tête inclinée. Ainsi, seuls Callan et Milena restèrent debout. Son genou avait à peine touché le sol quand tout ce petit monde se releva. Il suivit le mouvement, supposant que les deux femmes n'étaient pas contraintes de sacrifier à ce genre de simagrée. Milena regarda Callan. La tête bien droite, son masque d'impassibilité intact, la jeune femme ne broncha pas comme si ses yeux traversaient l'arène sans la voir. Callan leva une main, l'éloignant à peine de son corps, le bras bien raide, et ne bougea plus. Milena se rembrunit, mais l'inquisitrice ne broncha pas. Si quelqu'un avait cligné des yeux dans ce silence de mort, on eût entendu le battement de ses cils. La reine se tourna sur le côté et tendit le chien à un homme vêtu d'un justaucorps vert pomme, d'une culotte à rayures rouges et jaunes et d'un collant noir. Derrière Milena, Richard remarqua une petite troupe de mâles attifés de la même façon. Avec un grognement vicieux, le cabot mordit la main du malheureux qui fit de son mieux pour ne pas réagir. La reine s'agenouilla devant Callan. Un jeune homme vêtu de noir accourut aux côtés de la souveraine. Il s'inclina, son front frôlant le marbre, et présenta un plateau à Milena. Elle prit une petite serviette, la trempa dans une coupe d'eau claire et s'essuya les lèvres, puis elle reposa la serviette. Prenant délicatement la main de Callan, elle la baisa de ses lèvres fraîchement purifiées.
« Je fais serment d'allégeance aux inquisitrices, » dit-elle, « sur ma couronne, sur mon royaume et sur ma vie. »
Richard n'avait jamais entendu quelqu'un mentir avec tant d'aisance. Callan baissa enfin les yeux sur Milena.
« Relève-toi, mon enfant. »
« Beaucoup plus puissante qu'une reine, » pensa Richard.
Il se rappela avoir appris à Callan comment confectionner un collet, suivre une piste ou dénicher des racines. À ses souvenirs, ses joues s'empourprèrent.
Milena se releva péniblement, avec sur les lèvres un sourire qui n'avait pas d'écho dans ses yeux.
« Nous n'avons pas demandé à voir une inquisitrice, » dit-elle.
« Et pourtant me voilà, »
répondit Callan d'une voix glaciale.
« Eh bien, c'est merveilleux, oui, tout simplement merveilleux !»
Le visage de Milena s'illumina.
« Nous allons organiser un festin, un grand banquet. Des messagers iront porter les invitations. Tout le monde viendra. Qui se priverait du plaisir de dîner avec la mère inquisitrice ?»
Elle tourna la tête et désigna les hommes en culottes rayées.
« Ce sont mes juristes !»
Ils firent une révérence à Callan.
« Désolé, mais je n'ai pas retenu tous leurs noms. »
Elle montra du doigt deux courtisans en robe jaune.
« Je vous présente Silas Tanik et Brandin Gadding, les conseillers en chef de la couronne. »
Les deux hommes saluèrent de la tête.
« Voilà mon ministre des Finances, le seigneur Rundell, et Dame Kiley, mon astrologue. »
Dans l'entourage de Milena, Richard ne remarqua pas l'ombre d'un sorcier en robe argentée.
« Et voilà James, le peintre de la cour !»
acheva la reine en désignant un homme fort pauvrement vêtu. Du coin de l'œil, Richard vit Zed se raidir. Sans détourner son regard libidineux de Callan, le type se fendit d'une révérence théâtrale. La main droite coupée à ras du poignet, il eut un sourire si mielleux que Richard, par réflexe, porta la main à la garde de son épée. Sans bouger le reste du corps, le sorcier lui saisit le bras et l'immobilisa en plein vol. Richard regarda autour de lui et constata que personne n'avait remarqué l'incident. Logique, puisque tous les regards étaient braqués sur la mère inquisitrice. Callan désigna ses deux compagnons.
« Zedekiah Zorander, un devin qui lit dans les nuages, mon conseiller personnel. »
Le vieil homme se fendit d'une révérence comique à force d'exagération.
Et Richard Cypher, sourcier de vérité et protecteur de la mère inquisitrice.
Richard imita plus ou moins adroitement son vieil ami.
Un défenseur plutôt indigent pour une mère inquisitrice,
lâcha Milena en dévisageant le jeune homme. Richard resta de marbre et Callan ne perdit pas une once de son impassibilité.
C'est l'épée qui frappe, l'homme ne compte pas. Si son cerveau manque de vigueur, son bras a la force voulue.
Cela dit, il a tendance à se servir un peu trop souvent de son arme.
La reine ne sembla pas croire un mot de cette déclaration. Derrière les courtisans, une petite fille descendait les marches d'un pas léger. Affublée d'une robe rose bonbon, elle croulait sous le poids de bijoux trop grands pour elle.
Elle vint se camper près de la reine, rejeta ses longs cheveux noirs derrière son épaule et ne jugea pas utile de s'incliner devant Kalan.
« Ma fille, » dit Milena, « la princesse Violette, ma chérie, je te présente la mère inquisitrice. »«
Tes cheveux sont trop longs, mère inquisitrice, »
lança la princesse.
« Nous devrions peut-être te les couper. »
Richard vit l'ombre d'un sourire satisfait flotter sur les lèvres de la reine. Le moment idéal, décida-t-il, pour lui ficher un peu la trouille. Il dégaina l'épée de vérité, la note métallique résonnant longtemps dans l'immense salle. La pointe de l'arme à un pouce de la poitrine de Violette, il lâcha la bonde à sa colère, histoire d'être plus convaincant.
« Incline-toi devant la mère inquisitrice !»
rugit-il.
« Ou meurs sur le champ !»
Sous le regard suprêmement ennuyé de Zed, Kala n'ayant pas bronché non plus, la princesse fixa la pointe de l'arme, les yeux écarquillés, puis elle se laissa tomber à genoux, tête baissée. Quand elle se releva, elle jeta un coup d'œil inquiet au sourcier pour savoir s'il était satisfait de sa révérence.
« Réfléchis avant de te servir de ta langue !»
grogna Richard.
« La prochaine fois, je te la couperai avec cette lame !»
Violette hocha timidement la tête et alla se placer derrière sa mère. Richard rengaina l'épée, s'inclina devant Kalan et revint se camper dans son dos comme un garde du corps digne de ce nom. La démonstration eut l'effet recherché sur Milena, qui reprit la parole d'une voix beaucoup moins arrogante.
« Comme je le disais, vous recevoir est un grand honneur. Nous sommes positivement ravis. » « Permettez-moi de vous conduire dans nos plus belles chambres. Le voyage a dû être épuisant. Avant le banquet, un peu de repos vous fera du bien, et après, nous aurons une longue converse. »«
Je ne suis pas venu m'empiffrer, »
coupa Kalan,
« mais inspectez vos cachots. »«
Les cachots ?»
répéta Milena, décomposée.
« C'est un endroit si triste et si crasseux. Préféreriez-vous pas... »«
Je connais le chemin. »
coupa de nouveau Kalan en avançant. Richard et Zed la suivirent comme son ombre.
« Votre Majesté, »
ajouta l'inquisitrice d'une voix à faire geler les banquises,
« veuillez attendre ici jusqu'à ce que j'aie fini. »
La reine s'inclina. Sans lui accorder un regard, Kalan s'en fut d'un pas décidé. S'il n'avait pas mieux connu son ami, cette scène aurait glacé les sangs de Richard. Et même comme ça, elle lui laissait une étrange impression. Ils descendirent dans les entrailles du château, traversant des pièces de moins en moins somptueuses à mesure qu'ils progressaient. Richard s'ébahissait toujours de la taille du palais.
« J'espérais que Giller serait là, »
dit Kalan.
« Nous n'aurions pas eu besoin de nous imposer cette épreuve. »«
Ça, c'est vrai comme Vérut Vera, »
marmonna Zed.
« Contente-toi d'une inspection rapide. Demande si quelqu'un veut se confesser. Quand tout le monde aura refusé, nous remonterons chercher Giller. »
Il sourit à Kalan.
Tu t'en es très bien tiré, mon enfant.
L'inquisitrice sembla touchée par le compliment.
Richard, tiens-toi loin de ce peintre, James.
Pourquoi? Il risque de faire un mauvais portrait de moi?
Ne le prends pas à la légère. Évite-le parce qu'il pourrait permettre qu'on te jette un sort.
Pardon? Tu as besoin d'un peintre pour ensorceler quelqu'un?
On parle beaucoup de langues dans les contrées du milieu, même si la principale est identique à celle de Terre d'Ouest. Pour jeter un sort, il faut comprendre ses paroles. Quand on ne parle pas un langage, la magie est impuissante sur ceux qui le pratiquent, mais un dessein, tout le monde le saisit. James peut rendre presque n'importe qui vulnérable à un sort. Kalan et moi sommes immunisés, mais pas toi, alors fuis-le comme la peste.
Leurs pas résonnaient sinistrement sur les marches de pierre. Dans les sous-sols, les murs suintaient d'humidité et des plaques de mousse les couvraient par endroits. Kalan désigna une porte bardée de fer sur sa droite.
« Nous allons par là !»
Richard poussa la porte qui s'ouvrait en grinçant, et ils s'engagèrent dans un couloir au plafond si bas qu'il dut baisser la tête. À la chiche lueur des torches, l'air empestait l'humidité. Le sol boueux était tapissé de paille. Au bout du corridor, Kalan s'arrêta devant une grille de fer. Derrière, Des yeux brillaient dans la pénombre.
« La mère inquisitrice veut voir les prisonniers !» dit Zed. « Ouvrez-nous !»
Richard entendit le bruit d'une clé qui tourne dans une serrure. Un garde courtois affublé d'un uniforme en piteux état tira la grille. Près d'une série de trousseaux, une hache pendait à sa ceinture. Il s'inclina devant Callan, visiblement à contre-cœur. Sans un mot, il leur fit traverser la petite pièce où il passait ses mornes journées, les guida le long d'un autre couloir obscur et descendit quelques marches jusqu'à une nouvelle grille. Du poing, il tapa trois fois sur les barreaux. Les deux gardiens qui se tenaient derrière sursautèrent et s'inclinèrent à la hâte devant Callan, puis, avec le premier homme, ils décrochèrent des torches de leur support et conduisirent les visiteurs jusqu'à une troisième grille que tous durent franchir en se pliant en deux. La lumière des torches déchira l'obscurité. Derrière des barreaux de fer, des deux côtés d'un étroit couloir, des prisonniers reculèrent dans l'ombre, un bras levé pour se protéger de la lumière.
« Zed !» souffla simplement Callan.
Comprenant ce qu'elle voulait, le sorcier prit sa torche à un des geôliers et l'atteint au-dessus de l'inquisitrice pour que les condamnés voient qui elle était. Des cris de surprise montèrent des cachots.
« Combien de ces hommes doivent être exécutés ?»
demanda Callan.
« Tous, madame !»
répondit le gardien courtois en frottant son menton mal rasé.
« Tous !»
répéta Callan.
« Complot contre la couronne !»«
Avez-vous tous commis des crimes capitaux ?»
lança Callan au prisonnier. Après un long silence, un homme aux joues creuses approcha des barreaux, les saisit à deux mains et cracha sur l'inquisitrice. Elle leva une main pour dissuader Richard d'intervenir.
« Tu viens faire le sale boulot de la reine? Je vomis sur toi et sur cette maudite Milena. »«
Je ne suis pas au service de la reine, mais de la vérité. »«
La vérité. Si tu veux le savoir, aucun d'entre nous n'est coupable. À part de s'être élevé contre les nouvelles lois, refuser que nos familles meurent de faim ou de froid, est-ce un complot contre la couronne ?» Les collecteurs d'impôts de Milena ont pris presque toute ma récolte, me laissant à peine de quoi nourrir les miens. Quand j'ai voulu vendre mon maigre surplus, on m'a accusé d'exploiter les gens. Les prix montent chaque jour, j'essayais simplement de survivre, mais on va me décapiter pour spéculation. Tous mes compagnons sont des fermiers, des commerçants ou des marchands honnêtes. Nous allons mourir pour avoir voulu gagner notre vie.
L'un de vous veut-il se confesser pour prouver son innocence ?
Des murmures affolés répondirent à Callan. Au fond d'un cachot, un homme décharné se leva et approcha des barreaux.
« Moi, je n'ai rien fait. Pourtant, on va me supplicier. Ma femme et mes enfants devront se débrouiller seuls. Recueillez ma confession. »
Il tendit les mains à Callan, s'écorchant aux barreaux.
« Je vous en prie, mère inquisitrice. »
D'autres prisonniers demandèrent à se confesser. Bientôt, tous implorèrent Callan de prouver leur innocence. La jeune femme et le sourcier échangèrent un regard sinistre.
« Jusque-là, souffla-t-elle à Richard, trois hommes seulement m'avaient présenté cette requête.
« Callan !»
cria soudain une voix familière au fond d'un des cachots. Callan s'approcha.
« Sidine ? Sidine ! »
elle fit volte-face.
« Gardien, tous ces hommes se sont confessés à moi et ils sont innocents. Ouvrez les geôles !»«
Un moment, je ne peux pas libérer tant de gens !»
Richard dégaina son épée. À cause de l'exiguïté des lieux, la lame percuta les barreaux, faisant voler dans l'air des étincelles. D'un coup de pied, le sourcier ferma la porte de fer dans son dos et pointa son arme sur les gardiens avant qu'ils aient seulement songé à s'emparer de leur hache.
« Obéissez ou je vous coupe en deux, histoire de récupérer plus facilement les trousseaux accrochés à vos ceintures !»
L'homme qui avait le plus de clés s'empressa d'ouvrir les cellules. Callan s'engouffra dans un cachot et en sortit presque aussitôt, Sidine dans les bras. Terrassé, l'enfant blottit sa tête contre l'épaule de l'inquisitrice, qui lui murmura des mots tendres à l'oreille pour le rassurer. Sidine lui répondit dans l'idiome du peuple d'Adobe. Elle lui sourit et parvint à le dérider en lui murmurant quelque chose que Richard, bien entendu, ne comprit pas. Le gardien ouvrait déjà l'autre cellule. L'enfant calé sur un bras, de sa main libre, Callan le saisit par le col.
« La mère inquisitrice affirme que ces hommes sont innocents. J'ordonne qu'on les relâche. » Toi et tes deux collègues, vous les escorterez hors de la ville. »
L'homme faisait une bonne tête de moins que Callan, qui colla son nez contre le sien.
« Si ça se passe mal, tu en répondras devant moi. »
« Oui, mère inquisitrice, c'est compris. Nous nous en chargerons.
Sur mon honneur.
Non, sur ta vie, corrigea Callan. Elle lâcha le geôlier. Les prisonniers sortirent et s'agenouillèrent autour d'elle en larmes. Ils embrassèrent l'ourlet de sa robe, voulurent lui baiser les pieds. Elle les chassa sans douceur.
« Ça suffit. Filez tous autant que vous êtes. Mais souvenez-vous, les inquisitrices ne sont au service de personne à part la vérité. »
Les hommes jurèrent qu'ils n'oublieraient pas et suivirent les gardiens. Richard vit que leurs chemises étaient déchirées dans le dos et tachées de sang, les marques du fouet. Avant d'entrer dans la salle où attendait la reine, Callan s'arrêta et tendit Sidine à Zed. Puis elle se lissa les cheveux, ajusta sa robe et se passa une main sur le visage.
« Ne perds pas de vue la raison de notre venue, mère inquisitrice, » dit le sorcier.
La jeune femme hocha la tête, releva le menton et franchit la porte. Milena n'avait pas bougé et sa suite non plus.
« J'espère que tout était en ordre, mère inquisitrice, »
demanda la reine avec un regard inquiet pour Sidine.
« Que faisait cet enfant dans tes cachots ?»«
Eh bien, je ne sais plus trop. Je crois qu'il a été pris en train de voler. On l'a mis là en attendant de trouver ses parents. Croyez-moi, ce n'était rien de plus.
J'ai établi l'innocence de tous les prisonniers, » dit Callan, « et ordonné qu'on les libère. » « À coup sûr, vous vous réjouirez de n'avoir pas dû exécuter des innocents. Quant à indemniser les familles qui ont souffert de ces erreurs, je ne doute pas que cela ira de soi. Si de semblables méprises devaient se reproduire, à mon prochain passage, en plus des cachots, je viderai le trône. »
Richard comprit que Callan ne jouait pas la comédie pour récupérer la boîte. Elle faisait son travail, tout simplement. Les sorciers avaient créé les inquisitrices pour ça, et son amie en était une jusqu'au bout des ongles.
« Que... quoi ?»
s'étrangla la reine. Elle se reprit aussitôt.
« Bien sûr, mère inquisitrice. Quelques-uns de mes commandants sont dévorés d'ambition. Ce sont eux, sans doute, qui ont arrêté ces gens sans que j'en sois informé. Merci de nous avoir évité ce déni de justice. Je m'assurerai que ça n'arrive plus, selon vos ordres. » « Si j'avais été au courant, croyez-moi, je ne vous aurais pas attendu pour... »«
Nous allons partir à présent, »
coupa Callan.
« Déjà ?»
s'exclama Milena, sans parvenir à cacher son soulagement.
« Que c'est dommage! Nous espérions tant vous avoir à notre table. Désolé que vous deviez nous quitter. »«
Je dois traiter d'autres affaires urgentes. Avant de m'en aller, je voudrais parler à mon sorcier. »«
Votre sorcier ?»
« Dis-leur !»
siffla Callan. Une fraction de seconde, la reine leva les yeux au plafond.
« Hélas, j'ai peur que ce ne soit pas possible. Arrange-toi pour que ça le devienne, sur le champ. »« Mère inquisitrice !»
gémit la reine, livide.
« Croyez-moi, vous détesteriez voir Dis-leur dans l'état où il est. »«
Sur le champ !»
répéta Callan. Richard fit jouer l'épée dans son fourreau, histoire de ponctuer les propos de son ami.
« Très bien, il est à l'étage.
Attends ici jusqu'à ce que j'en ai fini avec lui. »
La reine baissa la tête.
« Si c'est votre volonté, mère inquisitrice... »
Elle se tourna vers un des juristes.
« Montrez-lui le chemin. »
L'homme leur fit monter l'escalier jusqu'au dernier étage. Ils traversèrent une série de couloirs, gravirent un autre escalier, étroit et en spirale, et débouchèrent au sommet d'une tour. Blême, le courtisan s'arrêta devant une porte de bois. Quand Callan le renvoya d'un geste, il s'inclina et détala, ravi de s'éclipser. Richard ouvrit. Quand ils furent entrés, il referma derrière eux. Callan eut un cri étranglé, se détourna et se réfugia dans les bras du sourcier. Zed plaqua une main devant les yeux de Sidine. La salle était dévastée comme par une tempête. Il ne restait rien, pas même le toit, dont la moitié des poutres avait disparu aussi. Une corde pendait à une des survivantes. Le corps nu de Giller, les pieds en l'air et la tête en bas, se balançait sous les rayons du soleil. Un crochet de boucher traversait une de ses chevilles. Si le toit n'avait pas manqué, permettant une certaine aération, la puanteur les aurait chassés de la pièce.
Zed tendit Sidine à Callan. Ignorant le cadavre, il fit lentement le tour de la salle circulaire, le front plissé. Il s'arrêta et toucha les échardes de bois qui s'étaient enfoncées dans les murs après l'explosion des meubles, comme dans du beurre alors qu'il s'agissait de pierres de taille. Pétrifié, Richard ne parvenait pas à détourner le regard du corps de Giller.
« Mon garçon, viens voir ça !»
lança Zed. Le sorcier passa la main sur une zone du mur noire et rugueuse. À côté, il y en avait une autre, de la même taille. Deux taches noires dessinaient les silhouettes d'hommes au garde-à-vous, comme s'ils étaient sortis en oubliant leurs ombres derrière eux. Au niveau de leurs coudes, un cercle de métal doré avait fondu dans la pierre.
« Du feu magique !» diagnostiqua Zed.
« Tu veux dire, c'est tout ce qui reste de deux hommes ?»«
Calciné dans le mur, oui. »
Il passa un doigt dans la suie noire, la goûta du bout de la langue et sourit.
« Mais c'était davantage qu'un simple feu magique. Goûte aussi, Richard.
Pourquoi »« Pourquoi ?»
Du dos des phalanges, le vieil homme tapota le crâne de son protégé.
« Pour apprendre quelque chose. »
Avec une grimace, Richard obéit.
« C'est sucré. »«
Comme je te le disais, » jubila Zed, « c'est beaucoup plus qu'un simple feu magique. » Giller l'a nourri de son énergie vitale. Il a consumé son essence dans ses flammes. Un feu de vie de sorcier.
Il est mort pour faire ça?
Oui. Et le goût sucré indique qu'il s'est sacrifié pour sauver quelqu'un. S'il s'était suicidé, par exemple, pour échapper à la torture, la saveur serait amère. Giller a donné sa vie pour un autre être.
Zed approcha du cadavre, chassa les mouches, se tordit le cou pour voir Giller dans le bon sens et écarta un morceau d'intestin afin d'étudier son visage.
« Il a laissé un message, » dit-il en se redressant.
« Un message ?» répéta Callan. « Lequel ?»«
Il sourit. » « Quand on s'y connaît en la matière, on sait qu'un sourire figé par la mort indique que le défunt n'a pas abdiqué. »
Zed désigna l'abdomen ouvert en deux du cadavre.
« Tu vois cette plaie, Richard? Elle est typique d'une magie divinatoire appelée anthropomancie. Ses pratiquants lisent dans les entrailles des êtres vivants. Darken Ralph est le même genre de blessure que son père. »
Richard repensa au sien qui avait subi un supplice identique.
« Vous êtes sûr que c'était lui ?»
demanda Callan.
« Qui d'autre ? Lui seul aurait pu survivre à un feu de vie. Et cette plaie est sa signature. Regardez tous les deux. Vous voyez l'extrémité de la coupure, la manière dont elle commence à tourner ?»«
Et alors ?»
fit Callan en détournant le regard.
« Le crochet !» « Enfin, quand on finit le travail, l'entaille a une forme de crochet, c'est obligatoire. Pendant les incantations, cette incision lie le bourreau à sa victime, qui est contrainte de répondre à toutes les questions. Sur Giller, le crochet n'est pas terminé. Il a donné sa vie au feu avant. Et il a attendu que Ral en ait presque terminé. Au dernier moment, il l'a privé de la réponse qu'il cherchait. « Sûrement le nom de la personne qui détient la boîte. Morte, ses entrailles ne pouvaient plus renseigner Ral. »«
Je n'aurais pas cru Giller capable d'un acte aussi altruiste, »
souffla Callan. « Zed, » dit Richard d'une voix blanche.
« Alors qu'on le torturait aussi affreusement, comment Giller a-t-il pu mourir en souriant ?»
Le vieil homme lui jeta un regard qui lui fit froid dans le dos.
« Les sorciers doivent devenir des familiers de la douleur. Ils sont obligés de la connaître intimement. Pour t'épargner ça, j'accepte avec joie que tu refuses d'en devenir un. Peu de candidats survivent. »
Zed, pensa Richard. Combien de secrets connais-tu sans les avoir partagés avec moi?
Le vieil homme caressa la joue de Giller.
Tu as bien agi, mon élève. L'honneur à la fin.
Darkenral a dû être blanc de rage, dit Richard. Zed, on devrait filer d'ici. Tout ça me rappelle trop un appât accroché à un hameçon.
La boîte n'est plus là, c'est une certitude. Et Ral ne l'a pas, pas encore en tout cas.
Il tendit les bras.
Donne-moi le petit, Callan. Il faut continuer à jouer nos rôles. Inutile de révéler à ces gens le véritable but de notre visite.
Zed murmura quelques mots à l'oreille de Sidine qui éclata de rire et lui jeta les bras autour du cou.
La reine Milena, toujours livide, jouait nerveusement avec un coin de sa cape quand Callan revint se camper devant elle.
« Merci de votre hospitalité, »
dit-elle, repassant au vouvoiement.
« À présent, nous partons. »
« Une visite de la mère inquisitrice est toujours un plaisir, »
mentit Milena. La curiosité lui fit surmonter sa peur.
« Et... Giller ?»«
Je regrette que vous m'ayez prise de vitesse. »
dit Callan glacial.
J'aurais aimé me charger de lui en personne ou au moins assister au spectacle, mais seul le résultat compte. Vous avez eu un litige?
Il m'a volé un objet précieux,
confirma la reine, ses couleurs lui revenant.
Oui, j'espère que vous avez récupéré votre bien. Au revoir.
Callan s'éloigna, puis se retourna.
Reine Milena, je reviendrai m'assurer que vos commandants dévorés d'ambition ont été ramenés à la raison. Si j'apprends qu'ils exécutent encore des innocents par erreur,
elle ne finit pas sa phrase. Richard et Zed, Sidine dans les bras, suivirent la mère inquisitrice.
L'esprit en ébullition, le sourcier marcha près de son vieil ami et remarqua à peine les gens qui s'inclinaient sur leur passage alors qu'ils sortaient de la ville. Qu'allait-il faire maintenant? Shota les avait prévenus que Milena ne garderait pas longtemps la boîte. Elle ne s'était pas trompée. Où était l'artefact?
Retourner chez la voyante pour le lui demander lui aurait coûté la vie. Mais à qui Giller avait-il confié la boîte? Comment la découvrir?
Déprimé, Richard eut envie de tout laisser tomber. À voir les épaules voûtées de Callan, il devina qu'elle pensait la même chose. Aucun de ses amis ne parlait. Sidine jacassait gaiement, mais il ne comprenait pas un mot.
« Que dit-il ? » demanda-t-il à Zed.
« Qu'il a été courageux, comme le lui avait conseillé Callan. » Mais il est content que Richard, au sang chaud, soit venu le chercher pour le ramener chez lui.
Je comprends parfaitement ce qu'il éprouve. Zed, qu'allons-nous faire?
Comment le saurais-je, mon garçon? C'est toi le sourcier.
De mieux en mieux. Il avait donné le meilleur de lui-même, la boîte leur échappait toujours, et c'était lui, comme d'habitude, qui devait trouver une solution. Il se sentit sonner comme s'il venait de percuter un mur dont il ignorait l'existence. Certes, il marchait, mais il n'avait plus la moindre idée de leur destination.
À la lumière du soleil couchant qui teintait d'or et de pourpre les nuages, Richard crut distinguer quelque chose dans le lointain. Il accéléra le pas et rattrapa Callan. Elle aussi avait vu. À l'approche de la nuit, la route était quasiment déserte. Mais quatre chevaux galopaient vers eux, et un seul avait un cavalier.